Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Aux yeux du grand public, elles ont tout fait pour disparaître et pourtant depuis quelques mois, elles occupent le devant de la scène. On les a ainsi vues sur TF1, CNews, BFM TV par exemple ou France 3 Occitanie évidemment. Elles, ce sont les sœurs de l'abbaye Sainte-Marie de Boulor, des religieuses cisterciennes qui viennent de sortir de dessous leur voile, si je puis dire, un projet fou, Grange 21, explication. Grange 21, c'est donc le titre de cette émission Vivante Église en ce mardi matin depuis l'abbaye Sainte-Marie de Boulor dans le Gers. Et nous sommes aujourd'hui avec pour l'instant deux sœurs, nous rejoindrons peut-être un peu plus tard d'autres. Sœur Anne, vous êtes responsable de ce projet mystérieux, Grange 21, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Et sœur Diane, vous êtes responsable ici du magasin à l'abbaye de Boulor, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Alors merci de nous accueillir. Certains ont entendu parler de vous et ont vu vos vidéos sur Facebook, d'autres probablement ne connaissent pas du tout cette aventure. On va donc prendre le temps de la découvrir avant, pardon pour ceux qui sont très familiers de cette abbaye, mais dans la région il y en a quand même beaucoup qui ne vous connaissent pas encore. J'aimerais qu'on parle un peu de l'abbaye. Alors mon petit doigt m'a dit que à l'occasion du reportage de TF1 vous aviez eu des gens qui étaient venus qui habitaient près de chez vous et qui, pour la première fois, avaient découvert que vous existiez. Donc ça existe encore et on a toujours besoin de parler de vous.
Oui, tout à fait. Enfin, Sœur Diane, c'est vrai que vous pourriez témoigner. J'imagine qu'au magasin, il y a toujours du passage, là, en ce moment, suite aux différentes émissions de télévision.
Tout à fait. Et c'est vrai que les passages médiatiques ont amené du monde au magasin et très souvent du monde de la région, d'autant plus que ces dernières semaines, avec le confinement, les personnes ont plutôt pris l'habitude de faire du tourisme local. Et on a vu arriver comme ça des personnes qui nous disaient « Le monastère, on savait bien qu'il existait depuis un moment parce qu'on passe en bas sur la route et on voit l'abbaye sur la colline, mais on ne savait pas qu'on avait le droit de monter. »
Ah oui, à ce point-là, on n'avait pas le droit de monter. Et en tout cas, suite au reportage de TF1, c'est bien ça, vous avez eu des gens du pays qui sont venus pour la première fois.
Voilà. Et puis, d'autres nous ont dit « on ne pensait pas que vous seriez comme ça. » On leur a dit « Alors, on devait être comment ?»« On pensait que vous seriez vieille et aigrie.
» Ah, il y a du travail, bon.
Nous, on est ravis de faire leur connaissance.
Alors, on va voir si elles sont vieilles et gris. On va dire que ça va être aussi une émission test. En tout cas, ici, vous n'êtes pas si vieille que ça, puisque cette abbaye, quand on est un tout petit peu familier des médias chrétiens, est connue pour être une abbaye particulièrement jeune. Alors, combien êtes-vous de sœurs? Mon dernier chiffre, c'était 27 sœurs et une moyenne d'âge de 45 ans, si vous deviez présenter un peu la communauté sœur Anne.
Bien, effectivement, la moyenne d'âge correspond à ça. Depuis votre dernier chiffre, la communauté s'est agrandie de deux postulantes. Mais effectivement, on est dans ces clous. On est une communauté qui est arrivée ici en 1949 à Boulor. Donc on est une communauté nouvelle, j'ai envie de dire, par rapport à d'autres. Même si le lieu dans lequel nous vivons est vraiment lourd d'une longue tradition, puisqu'il y a des moniales ici depuis le XIIe siècle, à part quelques années d'interruption au moment de la Révolution française et puis au début du XXe siècle.
Après les lois de 1905.
Exactement.
Coupure jusqu'en 1949.
Exactement. Voilà. Ça a été la plus longue interruption. Et donc depuis 1949, la vie monastique a repris à Boulor. Cette fois, ce sont des cisterciennes. Avant, c'était l'ordre de Fontevraud, que les gens ne connaissent sûrement pas parce qu'aujourd'hui, il a disparu, mais qui était présent ici dans cette abbaye.
Alors en 1949, c'est donc... Pardon, vous voulez rajouter quelque chose, sœur Diane?
Oui, peut-être pour faire le lien avec les sœurs fontevristes qui nous ont précédés, le fait que les fontevristes comme les cisterciens sont des ordres monastiques qui vivent selon la règle de Saint-Benoît. Donc finalement, c'est toujours la règle de Saint-Benoît qui a orienté ou structuré la vie religieuse qui est vécue à Boulor.
Puisque donc vous êtes des religieuses cisterciennes, c'est vrai que j'aurais dû le préciser, religieuses cisterciennes, et donc les cisterciens, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc une réforme de l'ordre de Saint-Benoît, en l'occurrence au XIIe siècle, c'est bien ça, hein?
Oui, c'est ça.
Donc ça, c'est pour la présentation de la communauté. Alors dites-nous un peu plus, peut-être rapidement, mais des débuts, puisque au début, elles se sont battues, si je puis dire les choses ainsi. Elles ont été cinq pendant longtemps. Jusqu'à ce donc rentre dans l'aventure de votre abbaye, cette fameuse Claire de Castelbajac, qui en partie aujourd'hui fait aussi la réputation de ce lieu. Alors racontez-nous cette histoire.
Alors nos premières sœurs arrivent à 5 avec le projet de fonder une communauté cistercienne et dans un lieu qui était très délabré puisque du coup inoccupé depuis 1903 à peu près. Donc les sœurs organisent leur vie, travaillent le jardin, prient à l'église et attendent la relève pour compléter la communauté. Et elles attendent pendant 28 ans. Une première jeune fille se présente, qu'elles accueillent avec joie, et tout en se posant la question de savoir quelle va être la suite, parce qu'une jeune fille et puis cinq anciennes, ça faisait pas beaucoup. Et puis à ce moment-là, on commence à parler beaucoup dans la région de Claire de Castelbajac, donc une jeune fille du coin, gersoise, dont la famille était à côté de Mauvezin, qui est morte en 1975 à 21 ans d'une méningite. Et après sa mort, très vite, des personnes se sont manifestées auprès de la famille en disant qu'ils avaient été bouleversés par leur rencontre avec Claire. Et puis un groupe d'étudiants toulousains est venu en disant qu'ils aimeraient bien qu'on ouvre un procès de canonisation pour Claire. Ça faisait beaucoup pour une jeune fille de 21 ans. Et puis a commencé à circuler un petit recueil de lettres de Claire pour la faire connaître. Et là-dessus, quelqu'un suggère à nos sœurs de prier Claire pour demander des entrées pour la communauté. Le projet était de demander 5 entrées. Une neuvaine a été faite. Et dans l'année qui a suivi, 5 jeunes filles se sont présentées pour rejoindre la communauté. La première qui s'est présentée s'appelait Claire.
Alors, et quand on connaît un peu la vie monastique, 5 dans une année, c'est de l'ordre un peu du miracle quand même, hein.
En tout cas, c'est pas habituel, surtout quand on en a eu 0 ou à peu près 0 en 30 ans.
Alors, en tout cas, Claire de Castelbajac, maintenant, elle fait partie de l'univers de Boulor. C'est, on peut pas dire relique encore, mais en tout cas, son corps a été aussi transféré donc dans votre église, dans une petite chapelle au fond de votre église. C'était en 2004. C'est l'évêque du lieu donc qui avait donné cette autorisation. On y vient un peu de partout aujourd'hui en France. Quand on vous connaît un peu, donc il faut venir. Évidemment pour ceux qui sont de la région. Mais alors, ces derniers temps, vous faites parler de vous à cause d'un projet. Donc ce projet s'appelle Grange 21. Vous avez un certain nombre de manières de présenter ce projet. J'en ai lu une parmi d'autres. Bâtir pour l'éternité. Vous espérez que ce sera la seule grange du 21e siècle dans 100 ans. Bref, c'est un projet ambitieux. Sœur Anne, si vous deviez le présenter, on va dire à gros traits, et puis après on verra un peu ce qui a motivé ce projet.
Alors, le projet, c'est vraiment d'essayer de s'inscrire dans la tradition gersoise dans la tradition cistercienne et de l'inscrire dans notre paysage gersois pour bâtir une grange, c'est-à-dire reconstruire notre exploitation agricole selon la tradition des granges cisterciennes médiévales. Donc les granges, quand on parle d'une grange, c'est pas simplement l'endroit où on va mettre du foin ou du grain. C'était la structure économique qui portait l'activité économique des abbayes médiévales cisterciennes. Donc c'est une entité agricole. C'est une petite exploitation à proprement parler. Donc notre projet, c'est de s'inscrire dans cette histoire, en particulier en constatant que ces granges médiévales, elles ont eu principalement 3 caractéristiques. La première, c'est qu'elles ont été des lieux de développement très importants de l'agriculture, avec des grands apports de l'agriculture cistercienne pour l'agriculture en général. Donc ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est que ça a été des lieux de développement à la fois du commerce, mais plus largement des échanges. Elles ont permis en particulier la création de villes, par exemple, parce que comme les exploitations de ces abbayes cisterciennes, toutes ces granges produisaient plus que ce dont les abbayes avaient besoin de par leurs progrès techniques qu'elles ont permis, il y avait la création de marchés pour pouvoir écouler ces produits. Et puis voilà, il y a eu tout un maillage qui s'est déployé.
C'est le cas pas très loin, non, à Gimont.
C'est le cas de la ville de Gimont, exactement, tout à fait, à 15 km de chez nous. Quand on vient de Toulouse, la ville de Gimont a été bâtie sur les terres de l'abbaye de Plancelve, qui avait une grange juste en contrebas de la ville de Gimont, à Cahuzac. Et donc, ce sont les moines qui ont donné leurs terres pour pouvoir bâtir cette bastide sur ce territoire-là. Et puis, le troisième volet, j'ai envie de dire, de l'apport de ces granges, ça a été le volet plus à la fois culturel et puis, j'ai envie de dire, religieux. C'est tout l'enracinement, en fait, que ces granges ont permis au niveau de la culture, du rapport à l'écriture, du rapport à la vie de prière aussi derrière, qu'elles pouvaient insuffler un peu dans les campagnes.
Donc on sait que l'ordre bénédictin, on dit souvent qu'il a contribué à façonner l'Europe, mais on entend aussi que voilà, cette réforme des cisterciens, cette réforme de l'ordre bénédictin, les cisterciens y a aussi contribué. Si ça vous embête pas, j'aimerais juste qu'on passe au sujet suivant, et peut-être vous pourrez du coup nous dire ce que vous vouliez ajouter, Sœur Diane, parce que je vois le temps qui passe, et j'aimerais juste avant la pause que vous nous disiez un peu ce qui a motivé ce grand projet qu'on va découvrir. J'ai cru comprendre que c'est parce que vous poussiez un peu les murs et que donc il fallait aussi faire vivre cette abbaye, mais pas que. C'est aussi une abbaye qui est connue pour être sensible aux questions écologiques et agricoles, puisqu'ici vous avez une exploitation agricole. Alors quelles sont les différentes raisons qui ont poussé au développement de ce projet, Sœur Diane ?
Alors peut-être le déclenchement du projet, c'est la question économique, effectivement, de comment est-ce qu'on fait vivre une communauté qui devient de plus en plus nombreuse. C'est souvent des questions d'argent qui nous obligent à bouger plus vite peut-être qu'on ne l'aurait souhaité.
Ça vous rend plus, comment dire, plus familier de tout à chacun.
Ah ben là, voilà, on a les mêmes questions, je dirais, peut-être que tout le monde. Et donc, voilà, il faut payer des cotisations sociales pour l'ensemble de la communauté. Et donc, il fallait qu'on retravaille notre exploitation agricole parce qu'elle n'était plus suffisamment rentable pour nous faire vivre. Donc, c'était un peu le déclencheur. Mais on avait aussi un ensemble de questions qui nous occupaient l'esprit et le cœur depuis plusieurs années. Des questions diverses que tout le monde a en tête, mais il y a particulièrement la question écologique, la question de l'état de l'agriculture actuellement en France, la difficulté de vivre d'un travail agricole, les combats auxquels sont confrontés les agriculteurs, et puis le besoin de reconnaissance aussi de ce travail agricole par toute la société.
Combats qui étaient aussi les vôtres, c'est ça ? Donc du coup, comment dire, vous posiez déjà les questions pour votre exploitation ou vous aviez déjà fait des pas dans cette transition écologique et en fait vous vouliez aller plus loin ?
Je pense que la transition écologique, ça reste... Enfin, l'interrogation écologique, elle est là, elle a toujours été là. C'est finalement aussi, ça fait partie de l'approche monastique de chercher à travailler la terre de manière harmonieuse avec l'homme en essayant de donner la place à chaque créature, la bonne place, et de relier les créatures entre elles dans le regard de Dieu. Mais il y a eu aussi un élément fort qui a été la sortie de l'encyclique Laudato Si, qui a aussi marqué notre communauté dans son... Bah dans son chemin de conversion écologique, parce que c'était comme une invitation à dire « Mais est-ce que nous sommes cohérentes avec ce que nous souhaitons faire ? Est-ce que dans tous les domaines, on se pose les bonnes questions ? Et est-ce qu'on n'est pas... » Enfin voilà, je pense un petit peu comme tout le monde de dire « En tout cas, est-ce qu'on est authentique dans le témoignage qu'on donne ?» Et surtout, on attend souvent des monastères un aspect de vitrine sur certains sujets. Les monastères, c'est des lieux qu'on peut regarder dans l'Église. Et c'est important qu'on regarde quelque chose qui soit le plus ajusté possible.
Eh bien, on va le découvrir, en tout cas, quand on regarde sur votre site internet, qu'on peut donner à la fin de cette première pause pour ceux qui, par hasard, nous quitteraient. www.boulor.org, B-O-U-L-A-U-R, www.boulor.org. Eh bien, on entend parler, entre autres, de Pierre Rabhi. Certains ne connaissent pas, d'autres seront peut-être surpris de voir cette Pierre Rabhi sur votre site. Pierre Rabhi, donc, qui a développé entre autres le concept de sobriété heureuse, lui-même repris par le pape François dans Laudato Si. On va faire une première pause et puis on va vous retrouver. Vous allez nous parler de ce projet. Alors on va rentrer dans votre rêve quelque part qui devient réalité puisque le chantier a ici commencé il y a peu.
Thank you. présence.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Grange 21, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, un mot bien mystérieux pour ce projet, qui est donc celui de l'abbaye de Boulors, connue donc de certains, ainsi que ce projet, et d'autres qui, je l'espère, vont découvrir ou découvrir davantage cette grande et belle aventure. Avec nous pour nous en parler, Sœur Anne, qui est responsable de ce projet, Sœur Diane, qui est responsable du magasin, et puis, allez, secret de fabrique, on attend peut-être Sœur Marie-Madeleine, responsable du livre des merveilles, c'est ça, du chantier, preuve que vous en attendez des merveilles. Alors, vous avez présenté rapidement ce projet Grange 21, vous avez fait écho donc aux granges du XIIe siècle. Vous me disiez pendant la pause, Sœur Diane, que cette région avait été particulièrement riche avec ce type de grange. Quelle est la vision? Souvent, il faut une vision pour un projet, il faut un rêve. C'est ce qu'on dit d'ailleurs de la transition écologique. On dit qu'il faut proposer un rêve et arrêter de faire peur et d'être anxiogène. Alors, quel est votre rêve ici à Boulors?
Ben nous, notre rêve, donc c'est ce que nous expliquions déjà un tout petit peu tout à l'heure, c'est d'essayer de faire se rejoindre la grande tradition cistercienne en continuant à la faire vivre et à la déployer aujourd'hui dans notre abbaye de Boulors, à travers cette grange, cette exploitation agricole, qui soit un lieu à la fois de production agricole, mais également un lieu de développement pour notre territoire, d'un point de vue économique, mais aussi touristique, culturel, qui puisse apporter de la vie, du dynamisme autour de lui. Et puis également un lieu qui, pour nous, doit avoir un rôle social. J'ai envie de dire que ça s'inscrit pour nous dans cette dynamique d'écologie intégrale que le pape François nous invite à vivre à travers l'encyclique Laudato Si. C'est-à-dire un lieu qui va favoriser la rencontre, qui va favoriser la croissance de l'homme et de tous les hommes qui viendront et qui côtoieront ce lieu. Donc c'est un peu le rêve ambitieux, mais
donc bien. on n'est pas dans les religieuses rabougries qui sont allées se cacher quelque part. C'est au contraire, en fait, vous avez presque le désir de prendre encore plus votre place, à vous entendre.
C'est... Oui, en fait, on se dit mais un monastère, il est là pour rayonner, il est là pour soutenir l'Église locale, mais pour soutenir aussi, j'ai envie de dire, tous les hommes de bonne volonté. On n'est jamais là seulement pour soi sur cette terre, et notre vie de moniale, c'est une vie qui est à l'écart du monde pour pouvoir nous consacrer à la vie de prière, c'est vrai. Mais c'est également une vie qui doit être ouverte. Si on est enraciné ici, c'est aussi pour mieux accueillir, pour mieux rencontrer, pour que les gens sachent où nous trouver et où venir nous rencontrer. Ça, c'est un point très important à bien avoir en tête, en particulier par rapport à la vocation de notre ordre cistercien qui a toujours su, au fil des siècles, s'adapter aux besoins et aux demandes de l'Église, y compris quand ces demandes nous faisaient un peu sortir.
Oui.
Alors que vous êtes quand même, il faut le préciser, des religieuses contemplatives. C'est-à-dire, il y a une clôture ici.
Il y a une clôture, tout à fait.
Vous n'êtes pas d'abord des religieuses apostoliques. Enfin, vous n'avez pas en charge un apostolat particulier comme l'éducation ou autre.
Non, c'est vrai. Mais alors, la différence peut-être entre la vie active, la vie contemplative, elle est plus nuancée que ce qu'on a en tête souvent. C'est pas parce qu'on est contemplatif qu'on n'a pas de contact avec l'extérieur. Il y a des formes de vie religieuse où les religieux vont vers toute forme de pauvreté, vers ceux qui en ont besoin. Le monastère, c'est un lieu stable vers lequel peuvent venir tous ceux qui en ont besoin. Donc il y a la même dimension apostolique, mais qui se vit sur place. Et l'enjeu de ce projet, c'est aussi pour nous de mieux soigner toutes les rencontres qu'on peut faire au monastère. Et il y a mille raisons de venir au monastère.
Alors justement, donnez-nous un tout petit peu, on va rentrer dans le détail. Mais imaginons qu'on ferme les yeux, en tout cas, ça, oui, ça tombe bien, parce que comme c'est de la radio, ça va être plus facile.
Sauf si vous êtes au volant, quoi.
Voilà, sauf si vous êtes au volant, évidemment, il y en a encore. Il y en a de plus en plus, puisqu'on est maintenant déconfiné. Mais donnez-nous un petit peu une ou deux photos, comme ça, de ce lieu, et à quoi il ressemblerait dans 5, 10, 15 ans, quand il aura pris complètement forme, qui donne à voir ce rêve que vous venez de présenter.
Alors, j'aimerais bien que ce soit pas dans 5, 10 ou 15 ans, puisque le chantier a commencé et que vous voyez, pas plus tard qu'hier, les terrassiers ont terminé de réaliser la plateforme sur laquelle sera construite la nouvelle grange. Donc, on espère que ce sera dans relativement peu de temps maintenant. Déjà, effectivement, je trouve que j'aime bien votre idée d'une photo, d'une image. Notre projet de grange cistercienne, c'est effectivement un lieu concret. Qui va s'inscrire dans une architecture, qui va s'inscrire dans un paysage. Et on a extrêmement soigné la préparation pour que cette architecture, elle s'inscrive à la fois dans la tradition des granges médiévales. Donc on va retrouver, par exemple, dans notre bâtiment, les trois grandes baies qu'on voit très souvent et dans les églises et dans les granges cisterciennes pour la lumière de l'édifice.
Alors on donnera le détail après, mais si vous donnez une ou deux photos. Donc là, on est devant la grange.
Voilà. On est devant la grange.
La grange ressemble à quoi en quelques mots, par exemple ?
Alors, on est devant la grange, donc il y a ce grand bâtiment d'un côté, et puis de l'autre côté, un bâtiment plus de type architecture gersoise, avec plus un style de bastide, qui va être le bâtiment dans lequel il va y avoir la fromagerie et tous les ateliers de transformation.
Donc avec colombage, avec
exactement,
un premier étage
exactement,
en galerie.
Exactement, comme quand vous êtes sur les places de village dans les bastides gersoises. Et donc là, on a ces deux bâtiments, et sur notre photo, si vous voulez bien, on va dire que c'est quand même une photo avec un peu de vie, donc on va en faire un petit film. Qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer qu'on va avoir des sœurs qui vont circuler là, avec leur tracteur, avec leurs vaches, avec leur seau pour aller donner à manger aux cochons, avec leur brouette pour apporter les fruits du jardin pour faire la confiture. Voilà, donc il y a toute cette vie agricole d'un côté. Et puis on voit aussi passer un groupe d'enfants, un groupe d'hôtes, de familles qui sont là et qui viennent pour visiter ces lieux, pour découvrir, pour voir comment on moule la farine, pour voir comment on donne à manger aux vaches, pour voir comment on fait le fromage. Donc tout ça, on l'a pensé de manière à ce qu'effectivement, il puisse y avoir une visibilité sur le travail de la communauté.
Alors là, on va arrêter la photo et puis on va bouger la caméra, on va juste faire une deuxième photo. Si on arrive plutôt dans le coin lieu de prière, semble-t-il, il va y avoir donc une nouvelle entrée. On va entrer dans un magasin qui sera complètement refait. Et l'idée, si j'ai bien compris du magasin, c'est qu'il invite à la contemplation. Là, la photo, ça ressemble à quoi, sœur Anne ou sœur Diane ?
Alors là, la photo, on pourrait dire qu'il y a peut-être d'un côté deux, trois groupes ou petits groupes, familles ou groupes d'amis qui sont là et qui pique-niquent avec la vue sur les Pyrénées qu'on a quand on regarde vers Saramont. Sur le banc à côté, il y a deux anciens du village qui sont venus discuter un peu parce qu'il fait beau aujourd'hui et que ça leur permet de s'abriter à l'ombre de la grange qui est juste au-dessus. Et puis il y a un petit groupe qui quitte le magasin et puis qui commence à s'avancer vers l'église pour faire la visite et puis aller découvrir les lieux conventuels, la salle du chapitre, le cloître. Et puis à ce moment-là, ils croisent quelques autres qui sont là parce que c'est l'été et qui s'apprêtent à aller au lac de Saramont se rafraîchir parce que eux souffrent de la chaleur.
Bien, vous allez être financé par l'office du tourisme, c'est pas possible. Allez, on rentre un peu plus dans le détail. Alors dans ce projet, il y a 4 piliers, même 5. Écologie, patrimoine, économie, entrepreneuriat féminin et société. Alors on va pas s'arrêter de manière égale sur chacun. On commence dans l'ordre, j'imagine. Écologie, vous avez commencé à en parler. Ce premier pilier, comment vous l'illustreriez ?
Alors, on va prendre trois exemples parce qu'on pourrait en prendre beaucoup, mais on va essayer de se concentrer sur quelques exemples. Donc, on a trois points, par exemple. Le premier, ça pourrait être la gestion de l'eau. On a prévu de récupérer les eaux des toitures pour pouvoir les rassembler dans un bassin, enfin une petite retenue en contrebas, de manière à irriguer les champs juste au-dessus pour à la fois nourrir les vaches et puis également continuer à irriguer le jardin. Voilà. Donc on est dans une logique où on se dit mais comment est-ce que cette denrée précieuse qu'est l'eau, on peut la valoriser et du coup créer des espaces aussi de biodiversité qui vont favoriser le développement un peu de toute la petite
faune. Vous allez même jusqu'à la restructurer l'eau, j'ai vu ça. Ça veut dire quoi la restructuration de... Alors là, un système de traitement
ou... Oui, voilà, la restructuration de l'eau, c'est un système particulier pour la gérer et la rendre plus efficace, plus nourrissante, tout ce qu'on veut. Donc ça, voilà. Donc du niveau de l'eau, il y a tout ce travail-là. Ensuite, un deuxième point qu'on va essayer de soigner, ça va être les économies d'énergie avec la mise en place de séchage en grange. Alors le séchage en grange, c'est le principe en fait où on fauche le foin dehors, mais on le rentre avant qu'il soit complètement sec. Et il finit de sécher parce qu'on récupère, grâce à l'air chaud qui chauffe les toitures, qu'on récupère sous les toitures, on récupère l'air chaud et on le propulse avec un moteur, on crée un mouvement d'air, on le propulse sous le foin, il remonte, pouf pouf, et il en profite pour finir de sécher le foin qui est stocké en vrac.
L'avantage de le rentrer si tôt et qui sert.
L'avantage de le rentrer si tôt, c'est que ça permet d'avoir un foin de bien meilleure qualité parce qu'il n'est pas détérioré par le soleil qui en particulier détruit beaucoup les vitamines habituellement. Donc ça, c'est un premier intérêt. Et puis, un deuxième intérêt, c'est qu'en plus, ça permet des économies de carburant parce qu'il y a besoin de moins de passages dans les champs au moment de la fenaison. Et ensuite, surtout, pendant l'année, on n'a pas besoin de prendre le tracteur à chaque fois qu'on a une botte à descendre. Il y a juste une griffe qui consomme très, très peu en électricité et qui permet de distribuer directement aux vaches ce foin d'excellente qualité qu'elles peuvent avoir. Et puis, le troisième point sur lequel on peut insister, ça va être un effort au niveau de la construction des bâtiments avec des matériaux qui vont être des matériaux sains dans la recherche environnementale qu'ils représentent, en particulier pour la partie espace d'accueil, magasin et tout ça, où là on travaille vraiment l'orientation du bâtiment de manière à ce qu'il y ait quasiment pas besoin de chauffage, sûrement pas besoin de climatisation l'été.
Donc il va y avoir des grandes baies vitrées, par exemple.
Des grandes baies vitrées, mais orientées de manière à ce que l'été, elles se transforment pas en four. Et puis on va faire des murs en paille. On va être vraiment dans une logique de terre crue, de bois, de
voilà. Murs en paille, ça c'est un signe. Quand on commence à faire ces murs en paille, c'est qu'on
veut faire attention.
On passe du côté des écolos. Voilà. Sœur Diane.
Non, mais c'est vrai qu'on profite de l'occasion de faire ce bâtiment pour aussi utiliser les techniques les plus récentes qui aient pu... Alors parfois, elles sont pas très récentes, en fait. C'est des techniques anciennes qui ont été retrouvées. Mais on va dire que c'est des techniques de bon sens pour ne pas dépenser trop et faire quelque chose qui soit efficace et beau. Donc c'est une grande joie de se dire que c'est des choses qu'on peut vraiment mettre en place. Et là aussi, ça peut donner des idées.
Alors donc c'est une logique de développement local, durable et écologique, ai-je lu, donc local aussi parce que vous faites appel en priorité donc à des savoir-faire locaux. Ça nous fait un peu la transition toute trouvée avec la deuxième partie, le patrimoine, puisque une partie de l'abbaye, si j'ai bien compris, est classée au patrimoine, j'allais dire mondial de l'UNESCO, pas encore.
Peut-être pas encore.
est classée. Oui. Donc c'est une contrainte aussi pour vous, mais vous en faites une force, si j'ai bien compris. Expliquez-nous.
Voilà, alors c'est sûr que c'est une contrainte en termes surtout de budget, parce que du coup, ça implique des surcoûts absolument considérables.
Vous pouvez prendre un exemple ?
Mais par exemple, je pense qu'on va avoir à peu près les seules vaches de France qui vont, dans une étape de 1700 m2, avoir de la tuile canal en toiture, des murs en terre crue, en bois. Voilà. Ou alors un autre exemple un peu fou hein, en termes de budget, c'est que pour limiter l'emprise au sol et pas avoir des bâtiments trop grands à proximité du monastère, l'architecte des bâtiments de France nous a vraiment demandé de faire en sorte que l'emprise au sol soit restreinte. Donc on va avoir 2 étages pour le bâtiment des ateliers de production. Donc ça veut dire qu'on va avoir des confitures et du pâté avec de la désinfection à grande eau au-dessus de la fromagerie et d'un espace de traitement des légumes. Donc là, vous imaginez
puisque
qu'il faut...
tout est dans la même grange, en fait.
Voilà, tout est dans les deux mêmes bâtiments.
Les becs, les ateliers de formation, de
tout
transformation,
est à côté, enfin, disons, oui. Il y a 2 bâtiments hein, pour les animaux les ateliers. Mais ça nécessite une étanchéité parfaite entre les 2 étages. Et donc, c'est un surcoût considérable sur le bâtiment.
Donc, parce que la grange a vocation à faire partie de l'ensemble qui est lui-même classé. Donc la grange sera classée d'une certaine manière.
D'une certaine manière, on crée du patrimoine, c'est sûr. Hein, c'est ce qu'on a dit en souriant au directeur régional des affaires culturelles quand il est venu. Et c'est là qu'il nous a dit, vous y faisiez allusion tout à l'heure, que probablement dans 1 ou 2 siècles, la seule construction agricole du 21e siècle qui sera encore debout, ce sera cette grange-là.
Ah, voilà.
Parce que tout le reste, ça va être du bac acier et des matériaux pas du tout durables.
Donc c'est une contrainte, mais alors comment vous en faites une force, justement?
Je pense que la joie que c'est devenu pour nous, c'est de nous dire que ça nous remettait un pied dans l'éternité. On fait quelque chose qui doit durer, on fait quelque chose qui n'est pas seulement pour notre génération communautaire, mais pour les sœurs qui suivront. Et là aussi, ça nous replonge dans nos racines cisterciennes. C'est de dire, en fait, le Seigneur ne nous demande pas d'avoir une vue limitée à notre propre existence et qu'on hérite de ce qui est venu avant nous. Et puis, en fait, on se projette dans la suite et pour que d'autres puissent continuer à notre suite et puis avancer plus loin.
Dieu sait si ça, c'est très aussi, pape François, Laudato aussi, hein, c'est une expression qu'on cite souvent. Alors, je ne sais pas si elle est dans Laudato aussi, mais quand le pape François dit « le temps est supérieur à l'espace », voilà, on est dans le temps long et ça a des incidences. Je vois le temps qui passe, on va passer au troisième volet. Vous vouliez parler du volet société, c'est-à-dire que cette abbaye et ce projet, on l'a entrevu, a une vision, ou en tout cas un porte. Vous ne construisez pas pour vous, alors expliquez-nous.
Alors la dimension sociale ou sociétale du projet, c'est vraiment de se dire effectivement comment est-ce que ce projet peut bénéficier à tous. Quand on parle d'écologie, d'une certaine manière, on dit déjà ça, puisque c'est préserver un bien qui est commun à tous, c'est la création. Quand on parle de patrimoine, on est déjà aussi dans cette dynamique sociétale, parce que c'est un patrimoine qui nous est commun, et donc préserver un site, préserver un paysage, préserver un monument historique, c'est préserver quelque chose qui appartient à tous. Là, on veut aussi faire de ce projet quelque chose qui soit vraiment au service de tous. Alors, non seulement dans son terme, c'est-à-dire que ce soit vraiment un lieu que les gens puissent visiter, qui puisse être une vitrine du travail agricole, on y faisait allusion aussi tout à l'heure, et donc à travers ça soutenir les agriculteurs, mais aussi être un lieu où les uns et les autres vont pouvoir découvrir des choses. Il y a toute une dimension de ferme pédagogique, toute une dimension éducative dans le projet qui en fait vraiment un projet pour les petits et les grands.
On pourra voir les ateliers de transformation, je crois, de l'extérieur.
Tout à fait, voilà. Les animaux, on a vraiment prévu, par exemple, dans les tables, il y a une grande pièce avec des baies vitrées qui permettront de voir les vaches, la traite. Voilà. Donc tout ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur en se disant, mais c'est pour le bien de tous et c'est aussi une manière, évidemment, pour nous de montrer les merveilles que le Seigneur nous confie et nous confie à tous pour qu'on en fasse de belles choses et de bonnes choses à manger aussi. Voilà, donc ça, c'était un point important. Et puis, il y a également plusieurs autres aspects. Alors peut-être, Sœur Diane, je peux vous laisser parler du volet chantier participatif et toute la dimension de reconstruction, parce que c'est vous qui allez aussi vous occuper de ça cet été.
Oui, je pense que on voit une soif de beaucoup de personnes de mettre les mains à la pâte, ou les mains dans le cambouis, ou les mains dans la boue, ce que vous voulez, mais en tout cas de participer concrètement à des activités, en fait de trouver du sens pour leur vie par le travail manuel.
Voilà, de passer dans le réel, on va dire.
Exactement. Et ça, en fait, c'est pas nouveau dans la vie monastique, mais on a vu une très belle opportunité à travers le besoin de construire une partie des bâtiments avec des briques en terre crue.
Parce que, alors, la brique en terre crue demande beaucoup de main, terre crue, pardon, demande beaucoup de main d'œuvre. Ou...
Voilà, c'est un matériau typique de la région. Et puis, le terrassement de l'étable se fait exactement sur un filon de terre parfait pour faire des briques. Et ensuite, effectivement, quand on fait des briques, on a besoin d'être beaucoup, ça prend un petit peu de temps. Mais donc, on s'est dit, bâtir à plusieurs, c'est vraiment la base d'une belle construction sociale. Quand on fait ensemble un bâtiment ou un lieu, ça crée des relations qui sont belles aussi. Et donc, on a voulu proposer...
Donc, tout le monde a sa place, mais y compris, semble-t-il, on va dire les plus pauvres, j'aime pas trop cette expression, mais des gens qui ont besoin de se reconstruire par le travail, expliquez-nous ça.
Oui, ça c'est alors, à travers les chantiers participatifs ou à travers d'autres propositions, en fait, on regarde tout ce que notre vie monastique peut offrir de propositions pour les personnes de retrouver un petit peu leur propre centre et leur propre solidité en participant aux travaux de la terre, voilà, ou aux travaux de construction. Et le projet, la partie chantier va en donner l'occasion en partie, et puis après on réfléchit aussi sur la façon de pouvoir y travailler pour la suite. Et en particulier, on a des projets avec des groupes de jeunes qui suivent un chemin de réinsertion sociale.
Et qui viendraient vous rejoindre.
Et qui viendraient nous rejoindre et avec lesquels on pourrait faire des différents travaux de collaboration. Voilà, on réfléchit à pas mal de pistes dans ce sens-là.
Alors, écologie, patrimoine, société. Néanmoins, vous nous aviez dit que c'était au départ quand même pour aussi arriver à vivre correctement et puis à faire vivre les sœurs et le lieu. Et puis on imagine aussi qu'à être généreux avec tous ceux qui passent. Peut-être qu'on peut finir sur le volet économique rapidement, sœur Anne. Déjà aujourd'hui, on trouve chez vous donc des confitures, avec une fameuse confiture de cornouailles, si je ne me trompe pas, du fromage, et puis donc des pâtés de veau et de cochon. Est-ce à dire que demain, on va avoir d'autres nouveaux produits, ou ce sera les mêmes encore mieux ?
Alors, ce sera sûrement les mêmes encore mieux. Il y a aussi de la farine. Et donc, on va pouvoir développer davantage cet atelier farine. Je pense que surtout, ça va nous permettre de gagner en qualité, de gagner en variété de recettes, peut-être pour le fromage ou même pour les pâtés. Peut-être un jour aussi de faire de la charcuterie avec la viande, on verra. Donc ça c'est un petit peu la partie développement économique sur place. Après, ce que nous souhaitons aussi à travers ce projet, c'est soutenir l'économie locale en créant peut-être des marchés de producteurs, en créant peut-être sur place des possibilités à d'autres aussi de profiter de ce lieu. Donc ça c'est un point qui nous semble intéressant. Et tout cela, on l'a un peu mis en avant aussi à travers la dimension d'entrepreneuriat féminin que porte le projet. Alors on pourrait dire, mais vous surfez sur la vague des sujets à la mode, ma sœur.
C'est presque la start-up nation. Là. On a l'impression que Macron va débarquer chez vous.
C'est ça, presque. Et en même temps, il y a quelque chose d'assez juste. C'est ce qu'on dit dans la fameuse petite vidéo que beaucoup ont vue et qui présente notre projet. Et vous pouvez voir sur notre site si vous ne la connaissez pas encore. Mais ça fait partie de l'ADN démonial depuis des siècles. Les abbesses qui visitaient leur fondation à cheval, effectivement, on en sourit. Mais il y a quelque chose de très... Voilà, quand on regarde des figures... féminines qui n'ont pas eu froid aux yeux et qui se sont lancées dans des aventures assez incroyables, on se dit nous on ose faire ça et on espère que ça bénéficiera non seulement à l'activité économique de la communauté mais bien au-delà à l'activité économique aussi du territoire qui nous entoure, les chambres d'hôtes, les gîtes, les restaurateurs, si d'autres pouvaient en profiter, on serait ravis. Et déjà immédiatement, on est très heureuse d'avoir quand même pu démarrer le chantier, même si nous sommes loin d'avoir bouclé notre budget de financement. Parce qu'on voit qu'en fait, dans le contexte économique actuel, les entreprises qui peuvent travailler chez nous sont incroyablement reconnaissantes parce que le secteur du bâtiment en ce moment est en grande, grande difficulté. Et donc là, c'est un chantier qui démarre et qui leur permet d'aller de l'avant.
Qu'est-ce qu'on peut donner comme chiffre ? Les petits ruisseaux font les grandes rivières, donc on imagine que tout un chacun peut vous donner un petit coup de main financier. Venir faire connaissance, évidemment, encore plus aussi, mais vous avez besoin de combien
C'est sûr que là, nous, on cherche vraiment des fonds. Alors, on est en lien avec des entreprises, avec des fondations pour essayer de trouver des mécénats.
Puis vous êtes soutenu aussi hein, par l'Europe, par la région.
On est soutenu, voilà, la région, l'Europe, l'État. On a vraiment de beaux soutiens financiers de ce côté-là et on en est très reconnaissante. Après, c'est sûr que on a déjà eu beaucoup de retours de petits ou un peu moins petits donateurs, ce qui nous permet d'avoir déjà trouvé à peu près un quart du budget qu'on cherche en mécénat, mais il en reste beaucoup. En tout, sur les deux premières tranches, donc à savoir les tables et les ateliers de transformation, plus tout l'espace d'accueil, magasin, espace d'exposition, aménagement du parking et tout ça, on a un budget global avec tout l'ensemble et tout le terrassement, le volet paysager d'à peu près 4 millions d'euros, donc c'est vraiment considérable, et il nous faut 1 million de mécénats. On en a déjà un quart, c'est déjà super, il faut qu'on continue pour avoir la suite.
Voilà, une adresse avant qu'on fasse une deuxième pause, www.boulaur.org, boulaur.org. Et on va faire une courte pause musicale et puis on va vous retrouver pour finir, on va dire, élargir un petit peu le sujet et faire écho à un ouvrage, l'écologie intégrale au cœur des monastères, puisque les monastères sont ces lieux encore où les gens viennent, voire même se précipitent de plus en plus. Promis donc à un grand avenir et on verra que vous n'êtes pas seul à avoir à cœur cette présence écologique intégrale au cœur de la société française.
Oh.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Grange 21, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, depuis l'abbaye de Boulor, dans le Gers, Sainte-Marie de Boulor plus précisément, pour parler donc de ce grand et beau projet, de cette grange qui en fait est le chantier symbolique, mais on sent bien que c'est aussi tout votre monastère quelque part qui va être transformé, et vous espérez un petit peu du coup autour de vous. Justement, avant de parler des monastères, je voulais faire écho donc à ce livre que je citais avant la pause, l'écologie intégrale au cœur des monastères. C'est donc le fruit d'une réflexion et d'une rencontre, voire deux multiples rencontres, auxquelles ont participé un certain nombre de monastères français. On y trouve d'ailleurs un article de votre mère Abbesse dedans, mère Emmanuelle. On peut lire en introduction, sous la plume, je crois, de François You, qu'on a reçu récemment, père abbé de l'abbaye de Maïlis et président de la Conférence monastique de France. Entre autres, la vie monastique s'intègre dans le grand mouvement du retour sur une vie plus ordonnée qui anime la planète aujourd'hui. Et vous disiez tout à l'heure, je crois, on pourrait peut-être commencer par ça, je ne sais plus si c'est vous, sœur Diane ou sœur Anne, que vous avez en fait un rôle de témoin. Voilà, il y a des éprouvettes témoins, les monastères servent aussi à ça. Est-ce à dire qu'en fait c'est aussi ce que les non-chrétiens attendent chez vous?
Oui, alors certainement, en fait, la vie monastique, on pourrait croire que c'est une vie cachée, et on découvre petit à petit qu'en fait c'est une vie qui est faite pour être vue. Et c'est des lieux que les personnes peuvent approcher et voir. Finalement, nous, on n'a jamais un témoignage, ou rarement un témoignage de Dieu en direct, mais on témoigne en vivant notre vie monastique, et qui est une vie qui est faite d'un équilibre dans la journée, un équilibre entre la prière,
ça
le travail.
Bien. Incroyable, vous avez vu la coordination, on entend les cloches derrière, c'est
oui,
beau.
C'est magnifique, c'est ouais. l'appel à prier, l'évêque, oui. le prochain office qui sonne. Et ce que je voulais dire, en fait, c'est que finalement, notre vie, elle possède un équilibre qui est dans la règle de Saint-Benoît, mais qui est finalement un équilibre qui est beaucoup du bon sens, de la sagesse humaine, en fait, de se rappeler que l'homme est fait de multiples dimensions et que chaque jour, il a besoin d'honorer toutes les dimensions qui font sa personne. Et ça, c'est quelque chose qu'on vit au monastère et que toute personne qui vient peut voir, en fait. Il suffit de regarder, d'écouter. Et les chrétiens savent pourquoi ils viennent au monastère, mais parfois ils n'ont pas forcément en tête toutes les dimensions qu'ils y trouveront. Et les non-chrétiens trouvent toujours quelque chose qui leur parle, et c'est des occasions d'échange qui sont merveilleuses.
Est-ce que vous pourriez prendre un exemple comme ça, qui peut-être vous fait dire, et j'imagine qu'il y en a beaucoup, des personnes rencontrées où vous sentez qu'en fait elles attendent quelque part, elles ont une exigence forte quelque part à votre égard parce qu'elles cherchent Dieu. Donc elle cherche quelque chose qui le donne à voir. Et vous revient comme ça en tête des visages ou des situations, des noms rencontrés, sœur Anne?
Oui, bien sûr, oui, parce que ça arrive souvent.
Si vous deviez en choisir un comme ça, sans donner de nom peut-être.
Ben là, il me revient l'image d'un homme que qui était venu avec un groupe. Il était vraiment très très loin du Seigneur à ce moment-là. Il était venu simplement avec un groupe parce qu'on lui avait demandé de venir jouer de la guitare pour accompagner le groupe. Et donc, il avait accepté, comme il jouait bien de la guitare, de venir avec un groupe de chrétiens, même si lui ne partageait pas leur foi. Il s'est retrouvé à l'abbaye et donc il a été là à un moment. Moi, j'ai fait un témoignage parce que les personnes du groupe avaient demandé à ce qu'une sœur les rencontre. Donc, je fais mon témoignage. Il a été même très, très bouleversé. Simplement, moi, je parlais de notre vie. Et puis, suite à cela, du coup, il est rentré dans l'église. Et là, il a vécu vraiment un temps de rencontre personnelle incroyable avec le Seigneur. Et il est reparti de cette journée absolument bouleversé. Et ensuite, il a fait tout un chemin de foi. Il est revenu me voir de temps en temps. Et ça, c'est des exemples où on voit qu'en fait, nous, on est simplement là. On partage simplement ce qu'on vit. Et à travers ça, et ben, si le Seigneur, si c'est la bonne heure et que le cœur de la personne en face est ouvert, et bien, il peut se passer des choses absolument magnifiques. Et puis même si c'est pas comme ça que ça se passe, de toute façon, les uns et les autres partent toujours avec, avec au moins une expérience de paix, une expérience d'avoir rencontré des personnes, j'espère, souriantes et heureuses. Et
est-ce que ce qui les touche aussi, je vous montre le livre, c'est que vous inscriviez dans ce mouvement. Ça, vous avez des retours là-dessus, dans ce mouvement d'écologie, d'écologie intégrale, de proximité avec la Terre, d'attention à la création?
Oui. Alors, c'est vrai que souvent la porte d'entrée, c'est l'attention à la création, mais dans Laudato aussi, on voit bien que l'appel à l'écologie intégrale, c'est aussi de dire, si on respecte la terre, les animaux pour ce qu'ils sont, est-ce qu'on n'oublie pas non plus de respecter l'homme pour ce qu'il est? Et il y a quelque chose d'important qui est que l'homme, tout homme, a une dimension spirituelle, cet élan vers Dieu, qui est profondément inscrit en lui.
Est-ce que quand même ce qui vous vient, quelque part, vous sentez que le fait que vous travaillez la terre, que vous avez cette attention, ce projet, ça contribue à, on va dire, à faire signe, à parler de Dieu?
Oui, très fortement. Mais c'est là qu'on peut voir que le mouvement de la société et le mouvement de l'Église se rejoignent. Enfin, l'Esprit Saint est cohérent et il travaille partout à la fois. S'il y a une telle soif de retrouver un équilibre avec notre milieu de vie, qu'est la Terre, c'est bien parce que le déséquilibre est perçu par tout le monde. Les chrétiens vont pouvoir y trouver aussi un appel du Seigneur à la conversion et un chemin, mais il y a plein de choses qui sont appuisées aussi dans le regard des non-chrétiens, les perceptions se trouvent un petit peu partout, et en fait c'est très beau de voir la manière dont l'Esprit Saint peut regrouper ses attentes, et puis du coup au monastère on voit ces rencontres là de manière très très féconde.
J'aimerais pour finir l'émission qu'on parle d'une chose qui parle en fait du fond de votre vie à vous. Parce qu'on sent la grande générosité de ce projet, c'est des écotones. Alors, ça peut paraître un peu un terme barbare, c'est donc dans ce livre, hein, L'écologie intégrale au cœur des monastères, paru aux éditions Parole et Silence. Donc, votre mère abbesse, Mère Emmanuelle, parle des écotones. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que sont les écotones et en quoi ils parlent de votre vie ici? Et peut-être on verra aussi un petit peu de nous.
Donc, les écotones, ce sont ces zones frontières, ces zones, souvent des zones humides, les berges d'un lac, les marais, les lisières d'un bois, voilà, là où on est un peu entre deux écosystèmes.
Les bords d'un champ aussi,
en tout cas, ça va vraiment être des zones où on va être entre deux écosystèmes. Donc vraiment vraiment distincts. Et du coup, là où va se développer la vie d'une manière particulièrement dense, particulièrement riche, on va trouver une multitude de petites bêtes, de faunes, de flores un peu particulières dans ces zones-là. Elles représentent 5% de la planète, je crois, mais par contre, elles ont un rôle absolument considérable par rapport à la biodiversité, par rapport à l'équilibre général de notre Terre. Et là, en fait, c'est vrai que c'est une image que je trouve intéressante et que Mère Abbesse développe dans cet article, de dire que les monastères sont un petit peu comme ces écotones, non seulement parce qu'il va y avoir la rencontre entre deux écosystèmes qui va être l'écosystème de la petite société que représente la société monastique et puis de la plus grande société que représente tout le reste de la société humaine. Donc en fait, ça va être cette rencontre entre deux univers, et puis c'est aussi un lieu où se rencontrent le ciel et la terre, et donc forcément deux écosystèmes qui sont à la fois distincts et en même temps appelés à s'harmoniser, à se déployer ensemble et à être toujours plus ensemble porteurs de vie et de fécondité.
Alors c'est une zone fragile, à lire l'article, donc il faut en prendre soin. D'ailleurs, dans cet article, les écotones donc, sont riches, fragiles et uniques. Alors fragile, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Ça peut être intéressant aussi pour tout un chacun qui parfois attend beaucoup de vous quand ils viennent dans ces lieux. Et parfois, même ce ne sont pas ceux qui sont les plus loin de l'Église qui sont les plus exigeants, les plus demandeurs. Vous devez, comme cette clôture, en fait, arriver à gérer tout ça. Alors expliquez-nous, Sœur Diane. Fragile, ça veut dire quoi?
Fragilité, ça veut dire qu'il nécessite un équilibre pour que la vie se maintienne et se développe. Et en fait, l'attention à avoir, c'est l'attention sur l'équilibre. En fait, quand il y a deux milieux l'un à côté de l'autre, on a besoin d'échanges. Les échanges, c'est vital. Mais c'est l'équilibre des échanges qui doit être sans cesse revu. Il y a des moments où la communauté a besoin de peut-être plus d'intimité, parce qu'il y a des choses qui se jouent dans la vie communautaire. Toute la gestation du projet, on pourrait dire, elle s'est faite aussi à travers des temps communautaires qui étaient forts. Et puis il y a des moments où on sent que l'ouverture aura besoin d'être plus forte, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont besoin de sortir, d'être communiquées. Il y a des moments où on a beaucoup besoin de recevoir de l'extérieur. Et en fait, c'est l'attention à ces équilibres-là qui pour moi, représente le soin de cette fragilité.
Étant entendu, donc, que vous avez aussi, ça fait partie de votre vie, vous avez besoin de vous enrichir aussi de tout ce qui, j'allais dire, de tout ce qui vient, de nous qui venons dans ces monastères. C'est bien ça.
Bien sûr, c'est un vrai échange. Mais je pense que ce que dit Sœur Diane est intéressant pour tout le monde, y compris pour ceux qui nous écoutent et qui vivent pas nécessairement dans un monastère. On a tous besoin pour pouvoir avoir une vie équilibrée et féconde, de trouver cette harmonie entre l'intimité, qui peut être l'intimité de notre propre intimité ou l'intimité de notre vie de famille, l'intimité de notre équilibre personnel, et puis des moments où on peut aller à la rencontre de l'autre, et au contraire, où il faut qu'on aille à la rencontre de l'autre, on ne peut pas vivre confiné tout le temps. Et donc nous, on est dans cette même logique, et j'ai envie de dire, elle se joue au niveau social, au niveau des rencontres interpersonnelles, et puis au niveau individuel et spirituel de chacun. C'est dans la mesure où on aura une intimité profonde avec le Seigneur, une vie de prière, des moments où on saura préserver des temps où on va cultiver notre écosystème spirituel, quand on pourra aussi avoir un écosystème social, relationnel, incarné, qui sera bon, et où on va être dans cette situation extrêmement féconde des écotones, c'est-à-dire de la rencontre entre les deux, et ce sont ces moments-là et ces lieux-là qui nous permettent de déployer le plus ce que nous sommes. Mais c'est dans la mesure où on respecte chacun des deux écosystèmes et où l'un ne devient pas complètement destructeur de l'autre que ça marche.
Pour finir, j'avais une dernière question. C'est sur la clôture intérieure. J'ai le souvenir d'avoir entendu cette expression que je trouvais très belle, qui laissait entendre que la clôture physique que vous vivez, c'est aussi une manière d'arriver à vivre une forme de clôture intérieure. Alors, quel écho ça peut trouver chez vous? Comment vous parleriez de la clôture intérieure? Et puis, est-ce que ça concerne aussi tout à chacun? Qu'est-ce que c'est que cette clôture intérieure?
Si on prend l'exemple de l'élément de base de la vie, qui est une cellule avec un noyau et une membrane, la clôture intérieure, c'est peut-être la conscience de cette membrane et de se rappeler que On a notre autonomie comme communauté, on a notre autonomie comme personne, mais en fait cette autonomie, elle sera préservée si cette membrane est bien justement un lieu de circulation. L'idée de clôture intérieure, c'est la clôture du cœur, après tout, c'est de dire ce qui vient de l'extérieur n'est pas mauvais. C'est pas binaire, c'est pas le monde, l'extérieur est mauvais et ce qu'il y a en moi est bon, c'est pas non plus ce qu'il y a en moi est mauvais et l'extérieur est bon, mais c'est comment est-ce que dans la communication entre l'intérieur et l'extérieur, je donne ce qui est bon en moi et je reçois ce qui est bon de l'extérieur. Donc finalement, la clôture qui peut être un choc parfois physiquement, où on se dit mais comment je ne peux pas avoir accès à l'autre, j'ai un plexiglas entre l'autre et moi.
Et puis chez vous, à un moment, on est renvoyé à ça, c'est-à-dire qu'à un moment, on ne rentre pas dans la clôture avec vous, on participe à l'office, mais on ne peut pas les se mettre au milieu des stalles, donc il y a une distance qui s'oppose aussi.
Voilà, et cette distance qui peut être choquante parfois, c'est simplement un rappel physique de ce besoin de distinction pour choisir le bien qui est de chaque côté et faire communiquer le bien.
Eh ben, merci beaucoup de nous avoir présenté à nous, en tout cas sur Vivante Église, puisqu'on en avait entendu parler, sur Radio Présence, pardon, et sur Vivante Église, on aura d'autres occasions de vous avoir à cette antenne, mais de nous avoir présenté ce grand et beau projet Grange 21. Je redonne le site internet www.boulaur.org. Vous allez sur ce site, vous pouvez continuer à faire connaissance avec la communauté et ça vous renvoie vers un autre site, Grange 21. Si vous voulez être généreux, n'hésitez pas, les sœurs en seront ravies. Et sinon, vous pouvez aussi venir évidemment faire connaissance avec la communauté ici dans le Gers. Je rappelle aussi le titre du livre cité, L'écologie intégrale au cœur des monastères, paru aux éditions Parole et Silence. Merci beaucoup.
Merci Emmanuel, merci à tous.
Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Thank you.